Et oui, 22 antennes relais de la 5G sont déjà installées à Toulouse pour une mise en service annoncée à la fin de l'année ou au début 2021. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'arrivée de la 5G ne fait pas vraiment l'unanimité. J'en veux pour preuve les destructions et incendies d'antennes. Le dernier remonte au début du mois à Toulouse. Alors, c'est quoi le problème avec la 5G? Pour tâcher de répondre à cette question, j'accueille Sylvain Chabal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en physique et cofondateur de Tech for Good Occitanie. Ce sont des meet-up que vous organisez qui visent à promouvoir les technologies à impact positif. Alors, 2G, 3G, 4G, donc bientôt 5G. Sylvain Chabal, peut-être qu'il est utile de rappeler à ceux qui nous écoutent de quoi on parle et surtout à quoi correspond cette lettre précédée de ce chiffre. Ça sert à quoi tout ça?
Alors, il faut savoir que G, ça signifie génération. Il y a eu plusieurs générations de réseaux de téléphonie mobile. La 2G, donc la 3G, la 4G et la 5G. Et le passage d'un chiffre à l'autre représente des évolutions. La 2G a été développée dans les années 90. C'était principalement la voix et l'envoi de messages SMS. Après, la 3G est arrivée dans les années 2000 avec l'explosion en 2007 du smartphone. La 4G dans les années 2010 avec plus de débit par rapport à la 3G. Et la 5G donc qui arrive dans les années 2020. Donc ça correspond à des évolutions successives de réseaux de téléphonie mobile.
Voilà, évolution successive, on est donc sur du réseau de téléphonie mobile, c'est de ça qu'on parle ce matin. Et donc vous l'avez dit, le passage d'un chiffre à l'autre, c'est d'une génération à l'autre. On pourrait faire une analogie avec l'iChose 3 qui nous fait passer à l'iChose 4, pour parler d'une marque de téléphone bien connue. Et alors, Sylvain Chabal, qui est-ce qui décide et pour quelles raisons qu'on doit passer d'un chiffre à l'autre, et en l'occurrence là du 4 au 5 hein?
Alors, il y a à la fois des évolutions technologiques, c'est-à-dire on découvre des technologies qui sont plus efficaces que celles de la génération précédente, donc qui permettent par exemple plus de connectivité, plus de débit, etc. Donc, c'est principalement des enjeux technologiques derrière, mais il y a aussi des enjeux de saturation de certaines bandes de fréquences de certaines générations qu'il faut absolument désaturer et cela nécessite de changer de génération.
Et c'est l'État qui dit bon, maintenant la 4G est saturée, on va passer, c'est une injonction, comment ça se passe?
Alors généralement c'est les opérateurs qui font des évolutions technologiques, mais après c'est l'État, comme le domaine fréquentiel des radiofréquences est la propriété de l'État, c'est l'État qui par exemple met aux enchères certaines fréquences pour que les opérateurs de téléphonie mobile puissent les acheter et ensuite les exploiter. C'est ce qui s'est passé au début du mois de novembre. L'État a mis aux enchères des fréquences et que les quatre principaux opérateurs français, donc Bouygues, SFR, Orange et Free, ont acheté des fréquences 5G.
Et ce qui devrait, je crois, rapporter plus de 2 milliards d'euros à l'État. Sylvain Chabal, est-ce que la 4G couvrait toute la France?
Alors, la semaine dernière ont été rendues les premières conclusions du plan New Deal Mobile qui a été lancé par le gouvernement en 2018. À l'heure actuelle, on est à 96% de couverture du territoire en 4G. C'est ce qui a été annoncé par le secrétaire au numérique Cédric O. Par contre, effectivement, il reste encore des zones blanches qui ne sont couvertes par aucun réseau et il va y avoir nécessité, l'échéance est en 2022, d'équiper ces zones blanches pour que tout le monde puisse avoir accès à l'Internet mobile.
Oui, parce que ça fait partie des ceux qui sont opposants au développement de la 5G disent commençons par étendre la 4G partout avant de pouvoir penser à la 5G. Vous avez commencé, Sylvain Chabal, à nous en donner quelques bénéfices. Est-ce que vous pouvez développer par rapport au passage à la 5G, qu'est-ce que nous devrions gagner?
Alors, primo, comme je l'expliquais, un des bénéfices à court terme est la désaturation du réseau 4G.
Ouais,
après, au niveau du, oui, Après, au niveau du gain, il y a un débit qui sera augmenté, c'est-à-dire la quantité de données téléchargeables sera beaucoup plus importante. Donc, on parle d'un débit dans certains cas qui est 50 fois supérieur au débit de la 4G. Une aussi amélioration notable, c'est ce qu'on appelle le temps de latence, donc le temps de réponse, c'est-à-dire le temps entre le moment où la donnée est envoyée et le moment où elle est reçue sera de l'ordre de 1 milliseconde, c'est-à-dire très très rapide, ce qui peut ouvrir la voie à de nouvelles applications.
Lesquels?
Lesquelles? Alors notamment, on parle beaucoup de véhicules autonomes, de véhicules connectés.
Ah oui, les fameux
Donc,
objets connectés, oui.
oui, tout à fait. Donc, pour effectivement des véhicules autonomes, il y a besoin d'avoir un temps de réponse extrêmement rapide. Si une commande est envoyée d'un serveur quelconque, il faut que le véhicule soit en mesure de la recevoir rapidement. Après, on parle aussi de télémédecine. Bon, il y a visiblement il y a une vidéo d'un professeur chinois qui opère, d'un chirurgien chinois qui opère une personne à l'aide du réseau 5G, une personne distante de plus de 3 000 km. Là aussi, il y a besoin d'avoir un temps de latence extrêmement faible quand on manipule des robots de haute précision à distance. Il y a aussi la gestion tout simplement des infrastructures routières, donc des feux rouges, ce qu'on appelle les objets connectés, c'est-à-dire des objets qui envoient directement des données sans passer par un smartphone ou par un ordinateur. Les objets connectés permettront notamment de réguler le trafic des feux rouges en fonction du flux de voitures pour limiter les bouchons et pour aussi peut-être contribuer à faire diminuer la pollution dans certains endroits.
Ça veut dire que le bénéfice, on l'entend, est essentiellement pour les professionnels, pour le consommateur, celui qui dispose d'un téléphone portable comme vous, comme moi, comme ceux qui nous écoutent. Ça va changer quoi, la 5G, à part le fait de pouvoir se connecter plus rapidement?
C'est principalement des enjeux de connectivité, de téléchargement beaucoup plus
D'accord.
rapide en fait pour le consommateur. Ensuite, effectivement, la 5G a principalement de grandes implications à l'heure actuelle en tout cas pour les entreprises, mais moins pour les utilisateurs particuliers. Mais encore une fois, comme on est dans une technologie dont les usages vont évoluer au cours du temps, on ne sait pas du tout encore, on ne peut pas prévoir à 10 ans ce qui pourra bénéficier aux consommateurs.
Mais le consommateur, lui, devra probablement changer de téléphone, hein, et peut-être avoir un autre forfait aussi. C'est peut-être ça aussi qui va changer pour lui.
Oui, mais l'exploitation commerciale de la 5G va démarrer en France en début décembre. Le consommateur, lui, devra s'équiper d'un smartphone 5G. Bien évidemment, cela a un coût. Même si beaucoup de téléphones produits à l'heure actuelle sont déjà compatibles 5G, mais effectivement, pour avoir un forfait 5G, à l'heure actuelle, à une exploitation à décembre 2020, il va y avoir trois conditions. C'est avoir un téléphone compatible 5G, être près d'une antenne 5G, comme vous l'avez dit au début, il y en a 22 qui sont déployés
Déployé.
en Haute-Garonne, dont 18 à Toulouse, mais aussi avoir un forfait 5G.
Et alors Sylvain Chabal, je rappelle à ceux qui nous rejoindraient que vous êtes docteur en physique, vous avez fondé Tech for Good Occitanie, vous êtes notre monsieur 5G ce matin, vous nous aidez à comprendre ce qui ne va pas avec la 5G, parce qu'on entend beaucoup de choses sur la 5G, et notamment les opposants mettent différentes choses en avant, hein, des dangers pour la santé, avec notamment les ondes à haute fréquence. On parle également d'enjeux environnementaux. Qu'est-ce qu'il en est?
Alors, effectivement, les arguments sanitaires datent du début des antennes relais à intervalles réguliers. Dès qu'on a changé de génération mobile, on a à chaque fois entendu les arguments sanitaires. Il faut savoir que l'ANSES, donc l'Agence nationale
De sécurité.
de sécurité sanitaire, a publié un pré-rapport, j'insiste bien sur la notion de pré-rapport, en début d'année, donc en mars 2020, où ils indiquaient qu'on était dans des domaines fréquentiels qui étaient proches de domaines déjà étudiés. Donc, on pouvait imaginer que les comportements soient les mêmes au niveau de la santé humaine, donc c'est-à-dire pas de
Pas de danger.
comportement observé particulier. Par contre, le pré-rapport pointe aussi une absence de données scientifiques dans ces domaines fréquentiels. Et justement, l'ANSES va publier un rapport beaucoup plus complet après les tests qui ont été réalisés dans plusieurs villes de France début 2021. Donc, pour
Alors,
l'aspect sanitaire,
il y a des enjeux
oui.
environnementaux aussi qui sont pointés du
Tout à
doigt.
fait.
Je pense que ce sont les antennes qui posent problème.
Principalement les antennes, dans le sens où on parle de plusieurs dizaines de milliers de nouvelles antennes construites sur le territoire français. Donc il y a bien évidemment des questionnements par rapport aux productions de ces antennes. Il y a aussi un questionnement par rapport au renouvellement des smartphones pour avoir la 5G, tout en sachant qu'à l'heure actuelle, un Français renouvelle son smartphone environ chaque 18 mois. Mais après, le réseau 5G, au final, sera plus efficace, c'est-à-dire qu'il dépensera moins d'énergie pour la même utilisation que le réseau 4G. Donc, les enjeux environnementaux, difficile de trancher a priori, de dire si
Si c'est
quel
dangereux ou
sera
pas.
exactement le coût écologique au global.
Alors, je cite un avocat toulousain, Christophe Legvac, pour regarder des vidéos de petits chats sur un smartphone, la 4G est bien assez rapide. Est-ce que pour satisfaire 1% des utilisateurs, on doit exposer 100% de la population? Pourquoi est-ce que la 5G suscite autant de débats passionnés? Est-ce qu'il y a des usages de la 5G qui nous font peur?
Alors, je pense qu'il y a aussi tout un questionnement sous-jacent qui est un questionnement sur le progrès. Effectivement, on nous parle de plus en plus de rapidité, d'instantanéité, de vidéos en 4K, etc. Beaucoup de personnes commencent à s'interroger, à savoir pourquoi, quelle est la nécessité, quel est le
Oui,
but de cette accélération.
la course au progrès.
Oui. Et donc effectivement, il y a tout un questionnement au-delà des aspects écologiques et sanitaires sur à quoi ça sert. Comme je l'ai dit, pour les particuliers au début, à part effectivement, comme disait cet avocat, le fait de voir
Regardez
des
des petits
vidéos de
chats.
chatons beaucoup plus rapidement, ça ne changera pas grand-chose pour l'utilisateur, mais il faut voir en fonction des applications qui pourront être développées dans une dizaine d'années.
Voilà, c'est la télésurveillance, je crois, qui fait notamment
Oui.
assez peur, hein. Un
Oui.
grand merci pour vos explications. On y voit un petit peu plus clair, Sylvain Chabal, sur cette fameuse 5G. Elle sera mise en service d'ici la fin de l'année ou début 2021 à Toulouse. 22 antennes relais, vous nous l'avez dit, sont déjà installées. Merci beaucoup.
Merci à vous.